بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Toutes les louanges vont à Allah, mes frères. Toutes les louanges vont à Allah, l'unique, sans associé. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que les salutations et les prières d'Allah soit sur lui, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, aujourd'hui, nous allons de nouveau évoquer la génération des hommes et des femmes, la génération du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une génération qui n'est comparable à aucune autre génération après elle. Il s'agit de la génération du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les gens de son époque, eux qui se sont donnés corps et âme pour Allah, ils étaient en permanence entre les mains du messager d'Allah. Il était leur enseignant, il était leur dirigeant, il était leur conseiller. Les âmes de ces hommes et de ces femmes étaient en permanence abreuvées et alimentées par le prophète, alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder des sujets tels que leurs adorations, leurs sacrifices, leur savoir-vivre, leur politesse ou leurs efforts pour la religion. Non. Aujourd'hui, nous évoquerons ceux parmi les premières générations musulmanes qui ont péché ou qui ont fauté, qui ont commis des actes qui déplaisent à Allah le Très-Haut. Après cela, avec justice et vérité, nous comparerons leurs péchés avec les nôtres et nous comparerons leurs réactions après le péché à nos réactions après nos péchés. Le message islamique a illuminé le monde il y a plus de 14 siècles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'asseyait à même le sol, dans sa mosquée. Ses compagnons étaient toujours autour de lui. Il était telle la lune au milieu des étoiles, dans l'obscurité de la nuit. Il les instruisait, il les éduquait, il les purifiait à Fouane. Ses assises étaient les meilleures des assises, car ceux qui assistaient sont les plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, les valeureux émigrants mécois, al-muhajirun, les généreux et accueillants médinois, al-Ansar, et les plus pieux et les plus érudits parmi les êtres humains. Ce jour-là, une femme voilée entra dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète se tut et les compagnons se turent. Cette femme avança doucement en direction du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'elle fût devant lui. Alors, elle lui avoua qu'elle avait commis l'adultère et qu'elle portait un enfant issu de cette union défendue. Puis, elle demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, d'appliquer la sentence qui est réservée à ceux qui commettent l'adultère, car elle voulait être purifiée de ce péché. Quelle fut la réaction du prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il demanda à ses compagnons de se saisir d'elle? Est-ce qu'il fut heureux qu'une fidèle soit venue avouer son erreur? Non, mes frères, rien de tout cela. Son visage devint rouge. Il détourna son regard de celui de cette femme, faisant comme s'il n'avait rien entendu. Remarquez, mes frères, ce geste plein de foi et de sincérité de cette croyante. Il s'agit de la preuve que la foi était fermement ancrée dans son cœur et dans son corps. Cette femme sait très bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas simplement se contenter de la réprimander. Elle sait très bien quel est le verdict pour un adultère. Quelle grandeur de foi, mes frères. La foi est élevée chez ces gens-là, les gens des premières générations de musulmans, à tel point que même ceux qui transgressent parmi eux ont une foi supérieure aux plus pieux d'entre nous. Les fautifs parmi eux ont une foi qui transcende la foi des plus obéissants, des plus pratiquants parmi nous. Quelle fut alors la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il essaya de faire en sorte que cette croyante revienne sur ses paroles. Il chercha à savoir si elle n'était pas dans un état émotif ou en colère, ce qui l'aurait conduite à raconter n'importe quoi. Il lui demanda si elle connaissait la signification des paroles qu'elle venait de prononcer. Bref, lorsqu'elle confirma ses propos, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda de repartir, d'attendre la naissance de l'enfant qu'elle porte et ensuite de revenir le voir. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle partit, attendit la naissance du bébé, puis revint avec celui-ci auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle fit preuve par cela d'une endurance et d'une persévérance sans égale, car elle voulait être purifiée tout simplement. Elle portait son enfant 9 mois dans son ventre, puis le mit au monde, et dès les premiers instants de la vie du bébé, dès les premiers jours, elle se présente avec lui à la porte du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans le but d'être purifié. Jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne chercha à le retrouver après leur première entrevue. Jamais il n'envoya quelqu'un pour la surveiller. Elle aurait très bien pu s'enfuir ou se cacher. Au contraire, pour rien au monde, elle n'aurait retardé plus que cela la sentence qui l'attendait. Elle vint donc d'elle-même avec son bébé dans les bras. Elle dit, « Ô messager d'Allah, purifie-moi de l'adultère. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, prit le bébé dans ses bras et l'embrassa avec tendresse. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était plein de tendresse, il était plein de douceur, il était plein de miséricorde envers toutes les créatures, qu'ils soient des hommes croyants ou des non-croyants, que ce soit des animaux, des oiseaux ou autres. D'ailleurs, Allah ne dit-il pas de lui dans le Coran, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Qui allait donc allaiter ce nouveau-né si sa mère mourait? Qui allait donc s'occuper de lui si on lui appliquait la sentence? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Retourne chez toi, nourris ton enfant et ne reviens que lorsqu'il sera sevré, c'est-à-dire quand tu auras fini de l'allaiter. » Alors, elle allaita son enfant et revint ensuite auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Encore une fois, personne ne fut envoyé pour la surveiller ou pour être sûr qu'elle reviendrait. Cependant, la force de sa foi fit qu'elle se présenta d'elle-même au prophète, alayhi salatu wassalam, dès qu'elle put, avec dans ses bras son enfant qui tenait un morceau de pain à la main. Elle dit de nouveau, « Ô messager d'Allah, purifie-moi de l'adultère. » Alors, elle lui remit son enfant, et c'était pire que si on lui arrachait le cœur. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne faisait qu'obéir à un ordre divin. En appliquant la justice divine, le droit sur lequel repose la vie d'ici-bas, ce droit qui s'applique à n'importe quel être humain, mes frères, indépendamment de ses richesses ou de son rang. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Qui donc va s'occuper de cet enfant ? Je lui garantis qu'il sera en ma compagnie au paradis. » Un Médinois se leva, prit l'enfant et promit de s'occuper de lui. Ce fut une scène émouvante que celle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'en tient au commandement d'Allah sans user de force, de terreur ou d'intimidation. Son seul but est d'éduquer les âmes jusqu'à ce que l'homme devienne un croyant sincère, soumis à la justice divine. Allah nous dit dans le Coran, « Évitez le péché, que ce soit en public ou en privé. » Toutes les forces de ce bas monde, avec ce qu'elles comportent comme organisation et comme gouvernement, ne pourront jamais s'adresser à leur peuple et leur dire « Ne commettez pas telle chose, même en privé chez vous. » Pourquoi cela? Parce que seul Allah le Très-Haut connaît la vie privée et les activités secrètes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a éduqué ses concitoyens pour prendre en compte ce paramètre. Allah connaît les secrets de chacun de nous. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a accompli cette tâche d'une manière telle que lorsque l'un d'eux commettait un péché, il venait de lui-même, comme cette croyante, réclamer que la justice lui soit appliqué. Il arriva que le compagnon Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, injurie cette femme. Il a insulté cette femme à cause de son péché. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entend cela, lui dit « Doucement Khalid, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est-à-dire je jure par Allah qu'elle s'est repentie d'un repentir tellement valeureux qu'il suffirait pour que le pire des brigands soit pardonné. » Dans une autre version, elle s'est repentie d'un repentir tel qu'il suffirait au repentir de 70 personnes parmi les Médinois. De plus, connais-tu un repentir meilleur que celui qui consiste en le fait de donner sa vie à Allah le Très-Haut ? Oui, mes frères, l'application des règles divines, et nous y reviendrons plus tard, l'application des règles divines, doublée d'un repentir sincère, conduisent tout droit vers le pardon d'Allah. La justice divine doit être employée, quel que soit le grade ou le niveau social du croyant que cela concerne. Le deuxième récit concerne une femme qui vivait à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cette femme avait pour activité de voler les biens des autres. Et lorsque ses méfaits furent découverts, lorsque tout le monde se rendit compte que c'était une voleuse, la peine encourue pour le vol devait être appliquée. Cependant, elle faisait partie des femmes de haut rang de la tribu de Quraysh. Alors, les Quraysh voulurent agir en sa faveur, en envoyant quelqu'un intercéder pour elle auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, le fils du fils adoptif du prophète, alayhi salatu wassalam, qui fut désigné. Alors, Usama, radiyallahu anhu, essaya de réclamer l'indulgence au prophète, alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de cette voleuse. Le visage du prophète, sallallahu alayhi wasallam, se mit à rougir. Il dit, « Oh Usama, est-ce que tu es en train d'intercéder pour une personne qui a transgressé les lois d'Allah ?» Usama répondit, « Pardonne-moi, ô messager d'Allah. » Le soir même, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit un discours dans la mosquée dans lequel il dit, « Des communautés avant vous ont été détruites pour la simple raison qu'elles n'étaient pas équitables dans le jugement. Si l'un de leurs nobles commettait un vol, ils le laissaient tranquille. Alors que si un pauvre faible commettait le même vol, ils lui appliquaient la sentence. Je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, même si c'était Fatima, fille de Muhammad, qui avait volé, je lui aurais coupé la main. » Aïcha radiyallahu anha racontera plus tard que cette femme qui avait volé fut très heureuse après cela, car elle se repentit sincèrement, puis se maria. Elle rendait souvent visite à Aïcha radiyallahu anha qui rapportait ses demandes au prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères, mes sœurs, en islam, aucune personne n'obtient d'immunité qui lui éviterait la sentence qu'elle mérite. La religion d'Allah le Très-Haut ne fait pas d'exception selon les humeurs ou selon les caprices de un tel ou de un tel, ou selon tel médiateur ou selon tel autre intercesseur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si les lois de Allah ne s'appliquent pas au sultan, eh bien Allah maudit celui qui a intercédé et celui pour qui on a intercédé. Cela signifie, mes frères, que la législation s'applique aux grands comme aux petits, aux puissants comme aux faibles, car à quoi sert une législation si elle ne s'applique pas à l'ensemble de la communauté et si tous les hommes ne sont pas égaux devant ces lois? Voici une autre histoire qui concerne cette fois-ci un homme parmi les contemporains du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était un homme qui buvait régulièrement des boissons alcoolisées et qui était sanctionné pour cela. Un jour, un autre homme se mit à le maudire, et cela en présence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Ne le maudis pas, car je le jure par Allah, d'après ce que j'en sais, il aime Allah et il aime le messager d'Allah. » C'était une génération emplie d'amour pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et même les alcooliques parmi eux portaient en eux cet amour, leurs péchés, aussi graves qu'ils étaient, ne les empêchaient pas de livrer leurs âmes au Seigneur unique. Ceux qui commettent des péchés de notre communauté ne sont pas éloignés de la religion, comme certains le pensent. Ils n'ont pas renié l'attestation de foi. Ils ne se moquent pas de la religion. Et même à celui à qui il arrive de fauter, même dans celui-là, il y a beaucoup de bien. Et certains d'entre eux sont même des fervents défenseurs d'Allah et de son messager. Mes frères, mes sœurs, nous passons à présent à une histoire qui s'est passée à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était le calife, le commandeur des croyants. Omar gouvernait avec les règles d'Allah, ces règles qui garantissaient la cohésion d'une communauté musulmane qui était déjà mature à son époque, car cette communauté redoutait le Seigneur le Très-Haut. Un bédouin, un jour, s'opposa à Omar ibn al-Khattab en public, dans la mosquée, alors que Omar était sur le mimbar, c'est-à-dire qu'il était sur la chaire, debout, en train de prêcher. Un bédouin vint et s'opposa à lui. Après cela, ce bédouin put rentrer chez lui en toute quiétude, en toute sécurité, sans crainte de représailles de la part du chef de musulmans, Omar ibn al-Khattab. Pourquoi ? Car ce bédouin sait qu'il est protégé par les lois divines et parce qu'il sait que Omar applique les lois divines en pratiquant le dialogue et la justice. Une dernière histoire enfin, si j'ai le temps, qui se passe toujours pendant le califat de Omar ibn al-Khattab. Eh bien, Omar ibn al-Khattab était en séance avec ses compagnons. Deux jeunes hommes parmi les bédouins entrèrent subitement avec un homme attaché. « Qu'avez-vous ? » dit Omar. « Ô prince des croyants, cet homme a tué notre père. » Omar demanda confirmation au bédouin qui dit « En effet, je l'ai tué. Il est entré dans ma propriété et quand j'ai essayé de le chasser de ma propriété et qu'il a refusé, j'ai jeté une pierre qu'il a touchée à la tête et qui a causé sa mort. » Omar fit alors preuve de justice. Il demanda le talion pour cet homme. Cet homme devait donc mourir. Le bédouin dit « Je vous demande, ô prince des croyants, par celui qui a érigé les cieux et la terre, c'est-à-dire je vous demande par Allah de m'accorder quelques jours pour retourner chez les miens et de les informer que vous allez me tuer. Ils n'auront que Allah Ta'ala sur qui s'appuyer. Je vous promets de revenir. » Omar dit, y aurait-il quelqu'un pour se porter garant de son retour ? Alors, personne ne put se porter garant du retour de cet homme, car personne ne le connaissait puisqu'il venait de la campagne. Omar se tourna vers les jeunes et leur dit, « Pouvez-vous lui pardonner ?» Les jeunes dirent, « Non, celui-là a tué notre père, il doit être tué. » Omar demanda à nouveau, « Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans l'assemblée pour se porter garant que cet homme va bien revenir s'il s'en va voir sa famille ?» À ce moment-là, le compagnon Abu Dharr al-Ghifari, dont on a parlé il y a quelques semaines, se leva et dit, « Moi, je me porte garant, ô commandeur des croyants. » Omar lui dit, « Mais il a tué. » Abu Dharr lui dit, « Même s'il a tué. » Omar lui dit, « Le connais-tu ? » Il dit, « Eh bien non, je ne le connais pas. » Malgré cela, Abu Dharr se porte garant. Le chir arrive, donc je vais être obligé de m'arrêter. La fin de l'histoire, Inch'Allah, sur le site internet ou pour les arabophones, tout de suite, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.